Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette réunion d'information préalable pour les éoliennes à Spie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la nouvelle Égwine en charge de l'environnement. Donc, c'est une première pour moi aussi, finalement. Et merci aux intervenants, pardon, d'être présents.
Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tous. Mon nom est Christophe Aimance. Merci en tout cas à la commune de nous avoir permis de tenir cette réunion ici dans les locaux, surtout quand il fait bien froid dehors, on est content d'être à l'intérieur. Donc plus sérieusement, la commune effectivement préside et va assurer le PV de cette réunion. On rentre à partir de maintenant dans une procédure légale, donc cette réunion a une teneur légale, à savoir que c'est la toute première étape dans tout projet éolien en Wallonie. À titre de comparaison avec la Flandre, ce type de réunion n'existe pas. Les demandeurs font une demande de permis après avoir préparé leur dossier. Ici, en fait, le sens de la réunion, c'est que on déclare nos intentions. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on va faire une demande de permis pour un projet éolien dans un futur plus ou moins proche, à l'horizon de 3 ans. Donc, cette réunion d'information du public revêt un caractère légal et on nous demande aussi à ce qu'elle soit filmée. Donc, à l'heure actuelle où je parle, je suis filmé. Vous, dans le public, vous n'êtes pas filmé. Par contre, on est tenu d'enregistrer vos questions au moment où vous les poserez dans la deuxième partie. Voilà. Donc, si vous souhaitez intervenir, merci de prendre le micro. Ça va faciliter d'ailleurs la rédaction du PV qui sera aussi fait à la suite de cette réunion. Donc, merci à la communauté d'être présent. Désolé, voilà, il y a le bureau d'études qui est présent aussi, Madame Hermans, voilà, et moi je suis présent avec mon collègue Nicolas. Donc pour le programme de cette réunion, on va aller assez rapidement dans la présentation du projet, on va plutôt aller vers vos questions, c'est peut-être ça plutôt l'essentiel, je dirais, plutôt que de présenter, on va présenter quand même succinctement le projet. Le bureau d'études va effectivement aussi présenter la manière dont on procède à une étude d'incidence, qui est quand même le cœur finalement d'une demande de permis. Et puis on passera dans un dernier temps à la séance questions-réponses. Et si vous le souhaitez, on pourra prendre un petit verre ensemble. Si vous souhaitez poser des questions, là, de façon non officielle, puisque là, on n'enregistrera plus la réunion. Et vous pourrez, j'ai envie de dire, parler à bâton rompu. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, donc ce type de réunion, donc une réunion d'information préalable, dans notre jargon, une RIP, voilà, quel est l'objet de cette réunion? Ça a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de s'informer. Donc nous, on va vous informer, vous les riverains, de nos intentions. Nos intentions, je le répète, et on va le voir, ce serait de remplacer les 3 premières éoliennes qui se trouvent au nord de l'autoroute, des éoliennes qui ont été construites en 2013. Vous allez pouvoir, par rapport à la présentation, émettre des observations par rapport à ce que moi et ce que les différents intervenants auront dit, émettre des suggestions aussi, diverses, voilà. Vous pouvez même proposer des projets alternatifs, voilà, si vous estimez que c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit. Voilà, et alors vous pouvez identifier des points spécifiques. Ça, c'est peut-être le point le plus important, je dirais, c'est parce que le bureau d'études est là, ils vont étudier énormément de choses, ils vont le présenter. Mais le gros avantage de cette réunion, c'est que si vous avez une demande très particulière, c'est le moment de le faire. Vous pourrez le faire aussi par écrit ensuite. Je passe rapidement. On présente ce slide parce qu'on le doit. Mais donc la réunion qu'on a ici, il y a plusieurs. Les éoliennes seront uniquement donc sur la commune de Jemappes-sur-Sambre. Néanmoins, il y a différentes communes concernées. C'est assez compréhensible, puisque ces éoliennes ont une certaine taille, elles pourraient avoir des incidences sur différentes communes, et ici, on les a nommées. Et la RIP, c'est une étape préalable pour une demande du permis de classe 1. Voilà, donc. Ici, on est le 12 décembre, si je ne me trompe pas, réunion d'information préalable. On va consulter le public suite à cette réunion. Vous le verrez, vous avez jusqu'au 6 janvier, en fait, puisqu'on est un peu dans cette période de fête, donc on laisse le riverain, on laisse plus que 15 jours finalement, on laisse jusqu'au 6 janvier à ce que les gens puissent émettre des remarques. Et puis à partir de là, le bureau d'études va faire son travail, à savoir mener une étude d'incidence. Et puis éventuellement, si les conclusions de l'étude sont bon an mal an favorables, nous, en tant que demandeurs, le ministre, nous procéderons à une demande de permis et seulement à ce moment-là. Timing estimatif, au 12 décembre 2024, on estime qu'il faudra 2-3 ans pour procéder à tout cela. Donc la consultation du public, c'est qu'une redite. Voilà, donc on vous invite à remettre vos avis, vos propositions d'alternatives et remarques par écrit jusqu'au lundi 6 janvier 2025 à la commune dont vous voyez l'adresse. Vous retrouverez d'ailleurs cela dans la brochure qui vous a été donnée et vous me mettez en copie. Comme ça, la boucle est bouclée et on peut envoyer cela rapidement au bureau d'études qui feront le travail derrière. Je vais rapidement céder la parole à mon collègue Nicolas qui va vous présenter rapidement qui est Luminus, voilà, et qui est le demandeur.
Merci Christophe, donc bonsoir à toutes et tous. Je me présente Nicolas Depré, je suis en charge des affaires publiques de Luminus et j'accompagne mes collègues comme Christophe aujourd'hui dans le cadre du développement de nos projets d'énergie, et a fortiori de nos projets d'énergie renouvelable. Alors, je vais me permettre, avant de vous parler de la localisation du projet et de sa composition, quelques mots sur qui nous sommes, Luminus, pourquoi nous pensons qu'il est fondamental aujourd'hui de développer ce projet de remplacement, de repowering, donc de remplacement des éoliennes existantes par des éoliennes plus performantes et plus puissantes, et dans quel contexte global cette demande s'inscrit. Donc Luminus, qui nous sommes, on est le deuxième énergéticien en Belgique. On a une raison d'être qui est plus qu'un slogan marketing ou qu'un leitmotiv, c'est vraiment ce que nos plus de 2500 équivalents temps plein partagent au quotidien, c'est de participer à la construction d'un avenir neutre en CO2 et de réussir en fait cette triple transition économique, sociale et environnementale. Et pour le faire, on s'appuie sur trois corps de métier. Le premier corps de métier, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est la production d'énergie qu'on veut la plus verte possible. Le deuxième corps de métier, c'est la fourniture d'énergie. Donc là, c'est un peu plus douloureux. C'est le logo qu'on voit au-dessus de sa facture d'énergie. Et le troisième corps de métier, ça peut vous paraître un peu antinomique, et pourtant ça emploie plus de la moitié de nos équivalents temps plein, c'est d'aider les pouvoirs publics, les communes, la région, d'aider nos clients industriels, les grosses industries qui font tourner notre économie, mais également aider nos clients à réduire leur consommation d'énergie avec des projets innovants, puisque, faut se le dire, aujourd'hui, dans le monde de l'énergie, on ne vit pas une transformation, mais on vit une révolution. On parle maintenant d'énergie management system, de batterie, etc. Et aujourd'hui, tous ces nouveaux projets d'hydrogène vert emploient plus de 50% de nos équivalents temps plein chez Luminus. Alors Luminus, on a un parc de production. Vous le voyez, je vous ai dit, on essaye de produire l'énergie la plus verte possible. On va essayer de rajouter 3 éoliennes et d'augmenter cette part verte de notre parc de production. Aujourd'hui, on a plus de 284 éoliennes, ce qui représente 741 mégawatts, donc presque un réacteur nucléaire, qui sont répartis un peu partout en Flandre et en Wallonie. On a la chance, grâce à cette possibilité, d'être leader dans l'éolien onshore. Alors ça peut paraître, c'est pas pour dire cocorico qu'on dit qu'on est les premiers, les plus forts et les plus beaux, mais ça nous permet d'avoir le recul nécessaire pour implémenter et développer un projet de la meilleure manière qui soit et d'agir en bon voisin lorsqu'on s'implante sur un territoire comme votre territoire pour les au moins 25 prochaines années. Voilà, alors pourquoi finalement on installe ces éoliennes? Parce qu'on est engagé dans le défi de notre siècle. Il nous reste un quart de siècle, 25 ans, pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire ne plus émettre du tout de CO2 dans nos activités. L'Union européenne, notre pays, notre région wallonne se sont engagés même à une étape intermédiaire. Donc dès 2030, on doit réduire nos émissions de CO2 de moins 55% par rapport à ce qu'on émettait en 1990. Et donc, c'est un effort colossal qui nous attend pour les 5 prochaines années. Et donc, lorsqu'on parle de décarbonation, de neutralité carbone, de quoi on parle en fait? C'est ce graphique-là qui, en tant que citoyen, peut-être qu'on s'éloigne du débat de ce soir, mais qui est le plus important à comprendre lorsqu'on parle de neutralité carbone à l'horizon 2050. En fait, ce que vous voyez ici, c'est ce que nous, Belges, on utilise sur une année comme énergie pour se chauffer, pour se déplacer ou dans nos processus industriels. Et lorsqu'on parle de décarbonation, l'objectif, c'est que toute cette partie grise, qui est l'utilisation dans notre consommation d'énergie de produits fortement émetteurs de CO2, comme du pétrole, du gaz et autres. L'objectif, c'est d'éradiquer cette partie grise et d'électrifier nos usages. Sauf qu'aujourd'hui, on a un parc de production électrique. Donc, si on prend tout ce qu'on produit comme électricité en Belgique, qui correspond à peine 22% de notre consommation énergétique. Et donc, le débat sociétal, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit mettre du nucléaire, est-ce qu'on doit mettre plus ou moins d'éoliennes, est-ce qu'on doit mettre un peu plus de panneaux solaires. En fait, aujourd'hui, si on veut réussir la transition énergétique, on doit mettre de tout. On doit mettre des centrales nucléaires, on doit maximiser les productions d'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien, et on doit continuer à développer des unités de pointe telles que des centrales au gaz. Pour réussir cette transition, je vous l'ai dit, tous les rapports internationaux, l'AIEA et d'autres, s'accordent sur 4 piliers d'action. Le premier pilier d'action, c'est la sobriété énergétique, donc c'est consommer moins. Le deuxième pilier d'action, c'est l'efficacité énergétique. Donc, c'est dans nos usages, dans nos rendements, dans les rendements, par exemple, de nos moteurs, convertir nos moteurs thermiques en moteurs électriques. C'est rendre ça le plus efficace possible. C'est électrifier nos usages. Par exemple, les grands fourneaux industriels qui fonctionnaient hier avec des produits émetteurs de CO2, les transformer en des fourneaux, notamment, qui utilisent l'électricité. Et puis, c'est la décarbonation. C'est là où on ne sait pas électrifier, utiliser des nouveaux usages tels que la captation carbone ou autre. Et là-dedans, dans tout ça, les éoliennes contribuent massivement à 4 gros objectifs sociétaux. Premier objectif, je vous l'ai dit et je vous l'ai expliqué, c'est de lutter contre le changement climatique. Le deuxième objectif, et on l'oublie, mais c'est de diminuer le prix global de l'énergie, puisque si vous allez aujourd'hui regarder le prix de l'énergie, il fait froid, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, le prix de l'énergie explose. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est parce que le prix de l'atome d'énergie est déterminé par ce qu'on appelle le merit order. Et la production d'un atome d'énergie une production d'énergie renouvelable exerce une pression sur les prix à la baisse. Et donc, au plus on va développer d'énergie telle que l'énergie éolienne, telle que l'énergie solaire, au plus le prix de l'énergie va baisser en moyenne. C'est une loi mathématique, c'est le croisement de l'offre et de la demande. On va aussi, le fait d'implanter des éoliennes sur un territoire, ça permet de rendre le territoire assez indépendant énergétiquement. Et dans un contexte géostratégique et géopolitique comme on le connaît aujourd'hui, c'est une importance capitale, puisqu'on ne produit pas de gaz, on ne produit pas de pétrole. Il y en a qui nous parlent d'hydrogène blanc dans nos nappes, entre nos nappes phréatiques, mais on n'est pas encore sûr de l'avoir trouvé. Ce n'est pas pour les 25 prochaines années qu'on va le découvrir. Et surtout, avec des projets, avec des éoliennes plus puissantes et plus performantes, ça va permettre, vous le verrez, de couvrir nos besoins en électricité, puisqu'avec ce seul projet, on va couvrir la consommation de plusieurs dizaines de milliers de ménages. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Je vais céder la parole à Christophe pour vous dévoiler notre projet.
Merci. Voilà, on va rapidement. Alors, l'essentiel de la présentation, c'est ceci, c'est la carte. Voilà, c'est de savoir, est-ce que tout le monde situe bien les lieux? Je pose la question, il y aura des questions-réponses après, mais ce que je peux comprendre, hein. Donc on va quand même, je vais m'approcher de l'écran, et voilà. Donc il y a l'autoroute, la dorsale wallonne, comme on l'appelle, il y a la chaussée qui relie Nivelles à Namur, il y a le parc Créalis au nord, et alors il y a la station totale qui est aussi connue, voilà, qui se trouve ici. Et alors la zone donc de l'avant-projet, ce sont les 3 éoliennes qui ont été mises en place en 2013. Aujourd'hui, ce qu'on vient vous présenter, c'est qu'on a le souhait à terme de remplacer ces éoliennes par 3 éoliennes plus grandes. Dans quel but? Mais comme l'expliquait mon collègue, de produire plus d'énergie pour exploiter au maximum le potentiel venteux. Ici, on zoome, donc voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est l'essentiel de la présentation aujourd'hui. Voilà. Alors, concrètement, ces 3 éoliennes aujourd'hui, le but, c'est de les remplacer par 3 plus grandes. Donc, aujourd'hui, ces éoliennes font 150 mètres en bout de pale. Donc, elles ont un mât qui fait de l'ordre de 100 mètres, 98 mètres exactement. Elles ont des pales de 52 mètres, on arrive à 150 mètres en bout de pale. Aujourd'hui, ce qui est envisagé avec les nouvelles technologies, à terme, sur un horizon de 5 à 10 ans, c'est de les remplacer par des éoliennes de 250 mètres en bout de pale. La raison est très simple, c'est d'aller produire plus. Bon an, mal an, ici, on va doubler la production, voire même tripler. Donc ici, c'est un maximum, 250 mètres. Si on monte à 250 mètres, on peut tripler la production actuelle. Si on est un peu plus bas, voilà, pour différentes contraintes, notamment aéronautiques ou autres, évidemment, le productif va s'en sortir directement. Alors, ce projet, il a aussi des retombées positives sur le plan, comme l'a expliqué mon collègue, sur le plan environnemental, économique et social. Donc, on a évoqué justement avant la réunion, donc il y a bien des taxes qui sont prélevées par la commune, donc c'est une incidence budgétaire sur les comptes de la commune. Il faut le savoir, nous, on est un acteur industriel. Donc, on installe des éoliennes, on les fait tourner, mais derrière, en fait, ces éoliennes, maintenant, elles appartiennent au public, via notamment des véhicules financiers tels que Activa en Wallonie. Alors c'est un peu complexe, mais globalement, on crée des sociétés dans lesquelles, finalement, ces sociétés, c'est ce qu'on appelle du partenariat public-privé, qui est peut-être plus connu maintenant, où globalement, aussi bien soit les communes, ou soit les provinces, ou la région, pas encore au niveau fédéral, mais peuvent participer et deviennent propriétaires quelque part des éoliennes. Et alors, il y en a certains qui sont présents d'ailleurs dans la salle. Il est possible aussi que ces éoliennes soient ouvertes aux citoyens directement. Voilà. Donc il y a différentes alternatives. Nous, on se positionne en tant qu'acteur industriel et puis après, les discussions sont ouvertes pour savoir qui souhaite quelque part être propriétaire de ces éoliennes en tenant compte effectivement des risques aussi que cela comporte. Voilà. Alors, au niveau environnemental, on va privilégier les entreprises locales. Il y en a certaines qui sont très bien implantées ici près de Genève-sur-Sambre, avec qui on fonctionne très souvent. D'ailleurs, il y a un chantier où on pourrait venir actuellement. On travaille avec des entrepreneurs plus que locaux, puisqu'ils sont ici implantés juste ici au-dessus. Il y a les retombées touristiques. Donc, apparemment, on a certains parcs où on a mis des parcours didactiques et autres qui ont eu leur attrait. On a évoqué les services énergétiques, donc autour des projets éoliens, il y a pas mal de choses qui sont faites aussi, et notamment avec les communes, et ça, donc évidemment, les discussions sont aussi ouvertes. Donc voilà, la balle est lancée. Donc il y a différents types de possibilités de projets qui peuvent être faits autour du projet éolien. Au niveau environnemental, c'est toujours effectivement un sujet qui nous est cher. Il faut savoir, maintenant, ça peut-être le commun des mortels n'est pas toujours au courant, quand on met des éoliennes, il y a des mesures environnementales qui sont mises en parallèle du projet, afin effectivement de compenser certaines incidences résiduelles du projet. Donc on place les éoliennes afin qu'elles aient le moins d'incidences possibles, on va les brider par moment, et au final, afin de quelque part s'assurer que le bilan environnemental est positif, on met des mesures de compensation, qui fonctionne par ailleurs très bien puisqu'on fait des suivis volontaires sur celle-ci. Ici, il y a quelques photos qui sont assez représentatives des espèces qui sont visées. Il y a différents types de mesures, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Participation citoyenne, donc il y a différentes formes, je l'expliquais. Il y a là peut-être le plus simple pour les gens qui ne veulent peut-être pas, typiquement vous pouvez prendre des départs dès 25 euros dans notre, quelque part, coopérative citoyenne. Donc Luminus a sa propre coopérative qui comporte effectivement pas mal d'avantages, certainement la simplicité d'être coopérant. Et voilà, donc du côté Luminus, on s'arrête là pour la présentation académique. Je vais céder la parole à Madame Hermans pour le côté bureau d'études et puis on pourra finir avec les questions-réponses. Merci beaucoup.
Ça s'enchaîne, ça non? Je peux m'en occuper. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Gaëlle Hermans et je suis chef de projet au sein du bureau d'études CSD Ingénieurs, qui a donc été mandaté par Luminus pour réaliser l'étude d'incidence de leur projet de repowering de leur parc ASPI. je vais mettre sur sombre. Donc pourquoi on doit réaliser une étude d'incidence? En fait, c'est une obligation quand on a un projet qui dépasse une puissance de 3 MW. Et donc, c'est une procédure légale qui est régie par deux documents, le Code de l'environnement et le Code du développement territorial. Finalement, l'étude d'incidence va en fait constituer une annexe de la demande de permis que Luminus va potentiellement introduire pour ce projet. Donc, qu'est-ce que c'est une étude d'incidence? C'est un outil qui doit être rédigé par un bureau agréé par la région Wallonne. C'est un outil à plusieurs égards. C'est d'abord un outil d'orientation pour le demandeur lui-même. En effet, au fur et à mesure de la réalisation de l'étude d'incidence, on va pouvoir orienter le demandeur pour qu'il optimise, qu'il améliore son projet. C'est ensuite un outil d'aide à la décision pour les autorités. En effet, les autorités vont pouvoir s'appuyer sur les conclusions de l'étude d'incidence pour prendre leur décision quant à l'octroi ou non du permis. Et finalement, c'est un outil pour vous, les riverains, le public, c'est un outil d'information car vous pourrez consulter donc ce document et connaître les conclusions de l'étude. Et donc, comme je disais, ce document doit être rédigé par un bureau agréé par la région Wallonne. Cet agrément garantit l'indépendance du bureau. On ne participe pas à la conception du projet. Et il garantit également les compétences et l'expérience du bureau d'études. Et donc, dans ce contexte, c'est CSD Ingénieur qui a été mandaté par Luminus. Rapidement, qui est CSD Ingénieur? Donc, c'est un bureau qui travaille au niveau européen, qui est pluridisciplinaire. Donc, il y a environ 850 collaborateurs, donc 80 en Belgique. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on travaille depuis plus de 30 ans en Belgique et depuis le tout début du développement de l'éolien en Wallonie. Donc, on travaille pas uniquement sur les thématiques de l'énergie renouvelable, mais également sur les techniques spéciales du bâtiment, la biodiversité, les certifications dans l'immobilier, etc. Donc, revenons à la soirée de ce soir. Donc, quels sont les objectifs d'une réunion d'information préalable? D'une part, donc c'est ce qui a été fait, c'est pour le demandeur vous présenter son avant-projet. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, c'est pour vous, le public, émettre des observations et venir chercher de l'information. Donc, nous, on va étudier le site pendant un an environ, mais on est tout à fait conscient que vous, en habitant la région, vous pouvez connaître, avoir des connaissances spécifiques sur la zone. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous de venir nous apporter ces connaissances pour qu'on puisse compléter le contenu standard d'une étude. Donc, c'est aussi pour vous l'occasion de nous présenter, de nous demander d'étudier des alternatives qui pourraient être envisagées par le demandeur. Donc ici, la spécificité du projet de ce soir, c'est qu'on est dans un projet de repowering. Donc c'est un projet qui vise le renouvellement, le remplacement d'éoliennes existantes. Donc comme ça a été dit, pour mettre des éoliennes plus grandes, plus performantes. Donc comme on l'a dit, c'est généralement des machines différentes, plus grandes, avec des implantations qui peuvent être différentes que les éoliennes existantes, parce que les contraintes locales ont pu évoluer depuis, ou parce que le cadre législatif a également évolué. Et finalement, les aménagements et les accès au site peuvent être différents, tout ça fait qu'une nouvelle étude d'incidence est obligatoire. Donc, quel est le contenu concrètement de ce document? Donc, on va commencer par présenter le projet en termes de localisation, de caractéristiques techniques. Ensuite, on va étudier la situation de référence de l'environnement. La situation ici initiale, mais aussi dans le cadre de ce projet de repowering, sans les éoliennes qui sont existantes. On va ensuite évaluer les effets du projet, mais aussi de son chantier et ici du démantèlement des éoliennes existantes sur l'environnement, sur toute une série de thématiques. Donc, on étudie les thématiques du sol, des eaux de surface, des activités socio-économiques, etc. Alors, quand on parle de projet éolien, il y a évidemment quatre thématiques qui sont particulièrement intéressantes, ou en tout cas qui sont plus sensibles. Donc, c'est le milieu biologique, le paysage et le patrimoine, le milieu sonore, donc l'acoustique, et l'ombrage. Donc, je reviendrai plus en détail par la suite sur ces quatre thématiques. Donc ensuite, on va étudier les éventuelles alternatives au projet. Donc on peut parler d'alternatives techniques. Est-ce qu'il serait plus intéressant de mettre des éoliennes plus petites avec un rotor plus grand, par exemple? Des alternatives d'implantation. Est-ce que l'implantation choisie par le demandeur est la plus intéressante pour le site? Et finalement, des alternatives de localisation. Est-ce que le site choisi est vraiment le site le plus intéressant? Tout ça a pour but d'arriver à une proposition de recommandation. Donc ce sont des mesures dans un premier temps pour éviter les impacts négatifs du projet sur l'environnement. Quand ce n'est pas possible, au moins le réduire, réduire ses incidences, donc via la mise en place de mesures d'atténuation par exemple. Et finalement, quand ça non plus n'est pas possible, recommander des mesures de compensation. Donc, comme je vous disais, quatre thématiques principales quand on parle d'un projet éolien. Donc, je vais ici vous les présenter brièvement. Donc, toutes les cartes, évidemment, sont présentées à titre d'exemple, hein, car on n'a pas encore débuté l'étude d'incidence de ce projet. Donc, première thématique, c'est évidemment le milieu biologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser toute une série de relevés pendant un an pour être sûr de couvrir tout le cycle biologique au niveau du site. Donc, on va réaliser des relevés sur l'habitat, donc pour identifier dans quel type de milieu on se trouve. Est-ce qu'on est plutôt dans un milieu de grande culture ou est-ce qu'il y a des zones forestières intéressantes, etc. Ensuite, on va effectuer des relevés en faveur des oiseaux. Donc, ça, c'est vraiment durant toute une année pour pouvoir identifier les oiseaux qui sont présents sur le site, qui fréquentent le site durant les différentes périodes de l'année. Donc on a des oiseaux qui sont présents durant l'hiver, d'autres pendant la plus longue période en nidification, et finalement à la fin de l'été, au début de l'automne, les passages d'oiseaux en migration. Et on va aussi étudier la présence des chauves-souris et identifier donc les espèces qui fréquentent le site. Tous ces relevés et visites de terrain vont pouvoir nous permettre de caractériser la qualité et l'attractivité biologique du site. Donc, deuxième thématique un peu sensible quand on parle de projets éoliens, surtout avec des éoliennes de plus en plus grandes, c'est évidemment le paysage et le patrimoine. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est inventorier et caractériser toutes les zones d'habitat et les maisons isolées à proximité du projet. On va aussi caractériser la qualité paysagère et patrimoniale du site via l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager, les points de vue remarquables et évidemment tous les sites et monuments classés. On va réaliser une carte de visibilité du projet. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? On va modéliser sur base du relief et des zones boisées au plan de secteur et évidemment de la hauteur des éoliennes envisagées, la visibilité du projet. Donc ça se représente comme ça. Donc ici, pour cet exemple, toutes les zones jaunes sont les zones depuis lesquelles au moins un morceau d'une des éoliennes du projet est visible. Et à l'inverse, toutes les zones grises sont les zones, les points depuis lesquels le projet n'est pas du tout visible. Qu'on va également réaliser pour illustrer, imager les incidences du projet, ce sont des photomontages. Donc, comment ça fonctionne? On va aller sur le terrain à des points stratégiques, que ce soit évidemment les maisons les plus proches, les villages les plus proches, mais aussi des points de vue remarquables, des éléments du patrimoine. Et on va réaliser donc des photos sur site dans lesquelles on va venir incruster des modélisations des éoliennes. Donc ça permet de bien se représenter les incidences futures et la visibilité future du projet. Alors, encore une thématique importante, c'est l'environnement sonore. Donc ce qu'on va faire, c'est caractériser le milieu sonore tel qu'il est aujourd'hui via une mesure de bruit sur site. Donc on utilise ce qu'on appelle un sonomètre qu'on place dans un lieu stratégique, idéalement une des habitations les plus proches du projet. Et ici, comme on est dans le cadre d'un projet de repowering et qu'on veut pouvoir illustrer la situation sans projet, sans parc, ça nécessite, et ce qui est un peu particulier ici, l'arrêt temporaire des machines pour pouvoir caractériser l'environnement sonore sans projet. Ensuite, toujours au niveau du bruit, on va réaliser une modélisation des niveaux sonores générés par le projet. Donc on réalise ça évidemment en situation maximaliste, donc on considère le modèle étudié le plus bruyant et comme si les éoliennes tournaient tout le temps à puissance maximale, hein, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc on va pouvoir comparer ces modélisations aux valeurs limites imposées par la région wallonne et identifier les lieux de vie, les maisons, les villages auxquels il y aurait un éventuel dépassement. Si on rencontre un dépassement, on va recommander la mise en place d'un bridage. Donc un bridage, c'est le ralentissement des éoliennes pendant les périodes les plus sensibles afin qu'elles fassent moins de bruit. Et dans tous les cas, on va également recommander un suivi acoustique post-implantation pour vérifier le bon respect des normes en vigueur. Alors, dernière thématique, c'est l'ombre mouvante. Donc, c'est le phénomène qui se produit quand on est placé par rapport au soleil à l'arrière d'un élément en mouvement. Donc, c'est un phénomène qu'on connaît tous, qui est assez désagréable, en tout cas suffisamment désagréable pour que la région wallonne ait également mis des valeurs limites en place. Donc, ces valeurs limites, c'est maximum 30 minutes par jour de ce phénomène ou 30 heures par an de ce phénomène en tout point où il y a une activité, donc une entreprise, une habitation, un hangar agricole, etc. Donc on va pouvoir à nouveau modéliser ce phénomène. On le fait de nouveau en scénario maximaliste, donc ça veut dire qu'on va imaginer la situation où le soleil brille toute l'année. On sait qu'en Belgique, c'est pas le cas. Et donc, on va pouvoir, au niveau de tous les points où il y a une activité, comparer cette modélisation aux valeurs limites. Et si on a un dépassement, à nouveau, on va recommander, ici, c'est pas un bridage, c'est vraiment un module d'arrêt qui, comme son nom l'indique, va tout simplement arrêter les éoliennes quand ce phénomène est, potentiellement peut se produire. Alors, dans le cas d'un repowering, donc comme j'avais déjà mentionné, on va aussi étudier, ça fait part intégrante de l'étude d'incidence, on va étudier le démantèlement des éoliennes existantes. Donc, tout doit être démonté, sauf ce qui peut être potentiellement récupérable. Certains chemins peuvent être réutilisés, par exemple, mais les éoliennes en tant que telles et leurs fondations sont dans tous les cas démontées. Donc juste pour vous rappeler la procédure et l'étape de la procédure à laquelle on se situe. Donc on est ce soir au niveau de la première étape, donc de la réunion d'information préalable du public. Réunion durant laquelle et à la suite de laquelle vous pourrez émettre vos observations, des suggestions. Ensuite, nous, en tant que bureau d'études, on va démarrer l'étude d'incidence dans laquelle on va intégrer vos demandes, vos remarques. Et ensuite, à la fin de la réalisation de cette étude d'incidence, donc le demandeur va pouvoir introduire sa demande de permis dans laquelle il va intégrer les recommandations du bureau d'études. Et suite à ça, va démarrer l'enquête publique. C'est une deuxième étape durant laquelle vous avez l'occasion d'émettre des remarques. Finalement, le dossier va rentrer en instruction auprès des autorités compétentes. Donc, toute une série d'administrations vont devoir remettre un avis, de un, par rapport au projet en tant que tel, mais aussi par rapport à la qualité et le contenu de l'étude d'incidence. C'est ce qui garantit l'agrément du bureau d'études. Et finalement, donc sur base des avis, des conclusions de l'étude d'incidence, les autorités compétentes vont pouvoir remettre leur avis favorable ou pas en faveur du projet. Et voilà, merci beaucoup.
Voilà, merci Gaëlle. Et nous allons passer à la dernière partie de cette réunion avant qu'on puisse prendre un verre, je dirais, si vous le souhaitez. J'ai remis la carte ici parce qu'effectivement, je vous avoue, même à titre personnel, on en parlait d'ailleurs avant la réunion, C'est un peu compliqué. Donc, je me suis permis, maintenant que je pense tout le monde visualise la zone de l'avant-projet, des trois éoliennes qui sont concernées, les différentes éoliennes qui existent, les différentes éoliennes en projet à proximité. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça mérite commentaire ou pas. Ce qui est en vert, en fait, je vais quand même donner un petit mot d'explication rapidement. J'espère que tout le monde voit bien. Peut-être Maître Schwagel, toi tu connais peut-être mieux, mais bon voilà. Donc, je le répète, la présentation de ce jour ne concerne que ceci. Voilà. Ensuite, il y a eu cette éolienne dans le parc Chialis qui était construite chez Free Pharma. Voilà. Donc, ensuite, il y a ces deux sites qui ont été construites il y a plus de 2019 de mémoire. Donc, on était plutôt à même 2020, il y a 4 ans. Il y a l'éolienne de Éolien aussi, ici, qui se trouve là. Voilà. Et alors, les deux éoliennes, c'est pour ça que je permets de présenter la carte, les deux éoliennes en bleu sont en cours de construction. Donc, si vous êtes passé par là, elles seront érigées ici, en théorie, si tout va bien, cet hiver. Je vous avoue, pas le meilleur moment pour ériger des éoliennes, mais voilà, c'est un peu les impératifs du projet qui ont fait que cela. Donc, les éléments des éoliennes devraient arriver, donc je pense que c'est l'occasion à titre informatif, parce que ça, effectivement, ça génère par moment des désagréments. Donc, pour info, les éoliennes arriveront par ici. Voilà. Pour celle-ci et les autres, elles arriveront par ici. Voilà. Donc, ce seront les gros désagréments. Et puis, il y aura un tracé qui sera fait aussi, le raccordement, qui est déjà fait, à ma connaissance, essentiellement. Elles iront se connecter là. Voilà. Et alors, ces deux points rouges, ça, c'était des éoliennes qui plus probablement ne verront pas le jour, puisqu'il y a déjà deux éoliennes maintenant presque existantes. Voilà. Et alors, il y a eu des réunions d'information qui ont eu lieu fin août, au nord du parc Réalis. Voilà. Donc là, il y a, en toute modestie, voilà, en tant que demandeur, on estime qu'il y a encore moyen d'en mettre deux, voire trois. Voilà. Y a-t-il des questions sur le plan? Non. Voilà. Si ça c'est clair, donc est-ce que vous avez des questions, on va essayer d'y répondre de manière plus objective et le plus claire possible. Alors, pour la rédaction du PV, c'est essentiel, on va vous demander de poser votre question dans le micro, de bien épeler votre nom, prénom. Et alors, je le répète, le but de cette réunion, on peut discuter de beaucoup de choses, mais je pense que l'essentiel, c'est que vous émettiez des remarques très personnel par rapport à des cas personnels qui seront quelque part étudiés par le bureau d'études. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une première question? Monsieur, vous le nom? Voilà, je vais vous donner le micro. Donc, vous pouvez vous présenter.
Oui, monsieur Dehon, de son bref. La réunion ne concerne que les trois éoliennes là, parce qu'il était question d'en implanter tout le long de l'autoroute jusqu'à Sambreville. Au départ, il devait y en avoir 12, puis ça a été 10, puis ça a été 8. Les autres ne sont pas reprises dedans ou...
Alors, je pense qu'on parle d'un projet, un autre projet, si je ne me trompe pas, je parle un peu parce que le bureau d'études analyse plus différencié, je pense qu'on parle plutôt d'un dossier du côté de d'Elicio.
Alors, je vais essayer. La réunion de 2005 et la réunion de 2023 et celle de 2022. Ça partait de celle-là, puisque Sambreville.
Non, donc on ne parle pas de ce projet-là. Alors. Donc, nous, on se limite à cette zone-là. Il y a des projets, si on parle plus de Sambreville, toujours le long de l'autoroute, monsieur? Oui, donc il y a eu d'autres projets à ma connaissance. Je pourrais reprendre une carte par ailleurs, le temps que... Voilà, pardon? Il y a New Win aussi, voilà. Donc là, on est sur la commune de Sambreville, effectivement. Je vous avoue que je n'ai pas le dernier statut de ces dossiers. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ces projets, à un moment, ont été surtout bloqués pour des contraintes aéronautiques, et d'autres aussi, certaines, peut-être. Voilà, il y a la proximité de l'aéroport de Charleroi. Ici, très clairement, pourquoi est-ce qu'il y a eu un espèce de phasage ici? C'est parce que les éoliennes, notamment à l'ouest, avaient été refusées dans un premier temps par la DGTA. Alors, c'était une question de maître. Voilà, les contraintes ont évolué. On est à 16 km de Charleroi, hein, donc ça, voilà. Voilà, donc, ah ben voilà, c'est dans l'aviation peut-être.
Et
Attendez, si vous avez une autre question. Donc là, je pense que j'ai répondu à votre question. Ça ne concerne pas ce dossier versant en brevet. Donc c'est un projet, là, un autre projet.
Et là, on peut mettre les 250 mètres malgré tout qu'on est dans le couloir d'approche.
Alors voilà, les contraintes évoluent. C'est une bonne question. La question de monsieur, c'est est-ce qu'on peut mettre des éoliennes de 250 mètres là aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'en ai pas la certitude. Ça va faire l'objet de l'étude d'incidence. On va demander des avis, notamment chez SKYES. Donc SKYES, c'est lui qui gère l'espace aérien civil. On doit tenir compte aussi de la défense. On doit tenir compte des contraintes radar. On doit tenir compte des zones d'entraînement. Et toutes ces contraintes évoluent. Voilà. Aujourd'hui, on pense qu'à terme, à un horizon de 5 à 10 ans, parce qu'on ne viendra pas mettre des éoliennes de 250 mètres demain, c'est un horizon de 5 à 10 ans. Voilà, le bureau d'études l'a expliqué. Aujourd'hui, on ne fait que commencer les études. On fera que la demande 2026-2027. Il faut avoir un permis. Ça prend encore un an, ou deux ans, ou trois ans. Et puis, pour construire, c'est encore deux ans supplémentaires. Donc, on est quasi sûr, à l'heure où on parle, qu'il n'y aura pas de nouvelles éoliennes, là, avant 2030. Notre meilleure estimation aujourd'hui, c'est très difficile, 2033-2035. La grosse inconnue, effectivement, c'est la taille. Voilà. C'est la taille et c'est la hauteur, mais c'est expliqué tout à l'heure, j'espère que c'est essentiel. Le but, c'est pas de mettre des éoliennes, le but, c'est de produire des mégawattheures verts. Et alors, il y a le but, au plus vous allez haut et au plus vous allez large, et le fait d'aller haut vous permet de brasser l'arche, on pourra, je dirais, ici jusqu'à tripler la production des premières éoliennes qui ont été mises ici. Voilà.
Et vous ne risquez pas de les toucher. Hein. À ce niveau-là, on est encore environ dans les 3000 pieds, donc on est encore aux alentours de 1000 mètres d'altitude, 1100, 3000.
Voilà. Voilà, j'espère que vos propos, j'en suis certain, sont corrects, mais voilà. Mais donc, il y a certains signes qui nous font dire, effectivement, qu'on pourra aller plus haut. On tient d'ailleurs à remercier SKYES et la Défense qui ont fait une preuve d'ouverture récemment. On aurait espéré que ça aille encore plus loin, mais il y a eu une concertation avec le secteur aéronautique, une compétence fédérale par ailleurs. Hein. Ici, un permis, c'est une compétence régionale. Donc, c'est ce qui complexifie encore un peu plus les choses. Voilà, mais on essaye de partager au mieux le ciel. En sachant qu'effectivement, des éoliennes de 150 mètres ne seront plus possibles. Elles n'existeront plus pour des raisons technico-économico-financières. Attendez, je vais vous redonner le micro de nouveau pour le PV.
Oui. Plus l'éolienne est grande, plus elle fait de bruit, ou les dents de requin dont il était question.
Alors, est-ce qu'une grande éolienne fait plus ou moins de bruit qu'une, entre guillemets, petite éolienne? La réponse est non. Pourquoi? Parce que...
Le bord de fuite n'est pas l'interminable.
En fait, ce qui génère du bruit, c'est effectivement, il y a un bruit mécanique, puis il y a un bruit aérodynamique. Tenez compte qu'en bout de pale, on est à des vitesses de 250 km/h. Peu importe la taille de l'éolienne. Donc, une petite éolienne va tourner plus vite, une grande éolienne va tourner moins vite. Et donc, globalement, une grande éolienne ne va pas faire plus de bruit. Et tant bien même qu'elle ferait plus de bruit, on devrait la brider, parce que on doit, et ça a été évoqué tout à l'heure, il y a deux points qui seront surveillés très attentivement. Et d'autres aussi, mais c'est tout ce qui est les effets d'ombrage et aussi les effets sonores. Voilà, je pense qu'ici, vous connaissez le contexte sonore, on est proche d'une autoroute, donc c'est pas pour rien qu'on vient se mettre là aussi. Le contexte sonore est quand même relativement important, voilà. Et donc, vous mettez trois éoliennes, il n'y aura pas, je dirais, d'émergence de bruit. Ça c'est voilà. Donc, et alors vous aviez évoqué les serrations, les peignes anti-bruit. Je suis encore repassé à Floref aujourd'hui sur notre parc où on a installé des peignes anti-bruit en 2016 sur des éoliennes existantes. Et là, on a vraiment vu un décroissement de l'émergence sonore. Donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent. Les éoliennes, c'est une technologie qui est très mature, mais effectivement au niveau aérodynamique, il y a encore pas mal de progrès qui sont possibles afin de réduire les incidences au maximum. Mais au niveau émergence sonore, qui si et pour preuve, c'est quoi, les éoliennes existantes n'ont pas suscité de soucis à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous souhaitez aborder? Oui.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Schull et je suis aujourd'hui ici à double titre. Premièrement parce que je suis un habitant de Bossière, donc j'ai une vue directe sur le parc actuel et sur le futur projet, mais aussi et surtout parce que je suis un des 1200 coopérateurs de Nosmoulin. Nosmoulin est la coopérative citoyenne de promotion des énergies renouvelables qui s'est principalement développée sur la commune de Jeanbloux, mais qui développe des projets et qui opère déjà des turbines sur toutes les communes aux alentours, y inclut Sombref, Wallin, Perroué, etc. Donc je ne vais pas repasser à travers tous les avantages d'avoir une participation citoyenne directe dans un projet comme ça. Je pense qu'on peut en discuter ensemble si vous voulez. Mais néanmoins, je pense que c'est très intéressant ce que vous avez dit dès le départ, Monsieur Aimance, que Luminus reste ouvert à une participation citoyenne via une coopérative locale. Et donc je voudrais profiter qu'on mette au PV que Nosmoulin se porte candidat comme une coopérative locale qui veut bien aider à apporter la participation citoyenne sur ce projet. Alors on sait qu'il y a un nouveau décret, un nouveau cadre de référence en région wallonne qui va bientôt ou qui est en application et qui recommande, puisque c'est le terme, que les citoyens puissent, enfin que le développeur pardon ouvre son capital à hauteur de 25% pour les citoyens, 24,99 et 25% pour les communes. C'est très bien, c'est très intéressant, ça permet à ce moment-là de tout le monde de toucher un peu les dividendes chaque année. Mais finalement, et donc ça contribue à la relocalisation des bénéfices. Mais finalement, voilà, ce point de vue transparence, gouvernance, autonomie, vraiment pesé sur le prix de l'électricité, tous ces aspects-là sont complètement perdus. Si c'est juste une participation citoyenne indirecte. Alors plutôt que de réclamer 25% de 3 éoliennes et d'entrer dans le capital là, et que la commune fasse aussi 25% de 3 éoliennes, je vous vous proposer à vous, Madame Lechevin, en tant que représentante du collège, si vous voulez bien rapporter la question au collège, plutôt que d'avoir 2 fois 25%, est-ce qu'on ne pourrait pas créer à ce moment-là une collaboration, coalition citoyenne communale, où on pourrait à ce moment-là opérer un des trois mâts, soit 33%, moins que ce qui est prévu par la loi, mais au moins on aurait une turbine câblée de manière tout à fait indépendante. Et quel est l'avantage de ça? C'est qu'en plus d'avoir les dividendes, on peut vendre l'électricité à qui on veut. Pas forcément aux plus offrants, mais peut-être à celui qu'on trouve le plus éthique. On peut nous-mêmes décider du modèle opérationnel, etc. Point de vue gouvernance, indépendance, autonomie, c'est vraiment un point supplémentaire. Et donc de ce point de vue-là, j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez rapporter la demande et alors éventuellement, je ne sais pas si c'est déjà un exemple que la commune a déjà pensé ou si vous y voyez une contrainte spécifique.
Ah oui, vous avez. Oui, j'ai le micro. Merci beaucoup. Oui, évidemment, faire le relais, ça, il n'y a aucun problème. Je vais relayer au collège. Par contre, si je ne me trompe pas, je ne suis pas là depuis longtemps. Mais Sandrine, arrête-moi si je me trompe. Mais c'est pas encore du tout arrivé. Je ne pense pas que ça ait été réfléchi. Donc, pourquoi pas.
Il y a plusieurs donc exemples qui existent. Hein, la commune de Perroué, la commune de Fernelmont, entre autres, qui se situent tout près, ont déjà fait la démarche de rentrer dans une éolienne qui est hybride, citoyenne et communale. Et donc, je pense que ça peut tout à fait se refaire ici sans problème. Merci.
Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, je réitère les propos de Luminus. Effectivement, donc, au plus un projet s'intègre localement, au plus, il va rassembler, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, on collabore ensemble déjà avec Nosmoulin. On l'a fait sur Fernelmont, donc le cas qui a été évoqué par Nosmoulin, on le connaît très bien puisque c'est le parc de Luminus. Et donc, Et puis je répète, effectivement, on n'est qu'un acteur industriel. Derrière, effectivement, la porte est grande ouverte à toute discussion pour que vous deveniez propriétaire avec nous. Effectivement, on parle de revenus, mais il faut être conscient aussi des risques que cela représente. C'est une technologie qui est mature, qui est nécessaire pour le développement socio-économique de la Wallonie, pour les différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais voilà, mais il faut être conscient aussi des risques que cela comporte. Voilà, il y a des risques industriels, financiers, légaux et autres. Donc ça, il faut en être conscient aussi. Par contre, je le répète, la porte est grande ouverte à toute discussion. Et on a effectivement des cas, on a évoqué Frédéric, on en a bien d'autres chez Luminus et ça s'est toujours bien passé. Voilà. Autre question. Autre thème, peut-être pour le bureau d'études, je ne sais pas s'il y en a, s'il y a des choses qui vous ont interloqué. Ah, voilà. Monsieur Passy.
Merci. Bon, je me demandais, vous parlez tout à l'heure de...
C'est Monsieur
Passy,
hein?
Oui, c'est ça.
Le PV.
Oui. Donc, le béton, moi je me rappelle quand on a construit, il y a jusqu'à 12 mètres de profondeur de béton. On va rechercher jusqu'à quelle profondeur?
Donc là, on est sur le volet du volet de démantèlement. Gaël, je t'en prie, puis je répondrai pour Luminus.
Alors, normalement, il y a une obligation légale de au moins enlever les fondations jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ça, c'est l'obligation légale. Pardon?
Oui, donc ici, on parle effectivement... Donc, la remarque de M. François, si je ne me trompe pas, était pas sur le contrat. Donc ici, toi, tu évoques un règlement... Voilà. Ici, effectivement, on est plus dans un contrat gré à gré. Mais effectivement, il y a des réglementations qui nous imposent, au moment du démantèlement, d'enlever ce qu'on appelle le socle. Voilà. L'ordre de grandeur des éoliennes qui sont mises en place n'a pas été simple, par ailleurs, puisque le sol est relativement karstique, je dirais, ici, à Spi. Il y a eu une éolienne, j'ai peut-être pas de schéma ici de fondation, mais il y a un socle, et puis il y a des pieux. Il y a même parfois des micro-pieux. Vous évoquiez 12 mètres, monsieur Passy. Parfois, on va jusqu'à 26 mètres même. Voilà. Ce qu'on va faire, et c'est une obligation. D'ailleurs, on a une garantie bancaire qui est à la région pour s'assurer qu'on démantèle convenablement et jusqu'au bout. Une garantie de l'ordre de 100 000 euros. Hein, comme ça, les choses sont claires. On enlève tout le socle. Donc, c'est globalement 400 mètres cubes de béton. Donc, 1000 tonnes de béton avec du ferraillage. On enlève tout. Par contre, les pieux, eux, c'est inerte. Eux restent bien dans le sol. Mais tout le reste est enlevé. Et effectivement, comme l'a dit Madame Hermans, il y a des réglementations. Et puis, effectivement, par moment, il y a aussi des accords entre propriétaires et exploitants. Et je dirais les deux couvrent finalement cet aspect-là. Par contre, je vous avoue humblement, à titre personnel, chez Luminus, on a 300 éoliennes. Nous n'avons jamais à ce jour procédé un démantèlement. Donc voilà, je ne veux pas vous parler avec beaucoup d'aisance puisque nous ne l'avons jamais fait.
Le pieu ne correspond pas au... Les fondations ne correspondent pas puisqu'elles vont avoir 100 mètres en plus de hauteur.
Oui. Donc ici, effectivement, concernant les fondations actuelles de l'éolienne, donc comme c'était présenté un petit peu. Je vais prendre les photos de CLD, Gaël. Voilà, ici. Donc, à nouveau, je ne vais pas parler avec beaucoup de confiance, mais globalement, c'est des opérations qui sont relativement rapides. Hein. Donc, si un jour on met de nouvelles éoliennes, on va commencer, et on nous autorise à mettre de nouvelles éoliennes, on va commencer le chantier des nouvelles éoliennes pendant que les autres sont encore en... J'ai envie de dire en bout de vie, on va exploiter au maximum le gisement venteux. On va enlever les éoliennes, les mâts, et puis après on va enlever les fondations, donc le socle, quoi. Donc c'est des opérations qui se font assez rapidement. Il y en a eu un récent, justement. Voilà, c'est la coopérative, je ne sais pas si vous avez, il y avait une de vos éoliennes qui était dedans, donc peut-être répondre à la question, ce serait intéressant. Si vous avez quelque chose à rajouter sur le démantèlement.
Non, mais... Là, c'était un peu particulier parce que c'était pas exactement au même endroit, alors qu'ici, je pense que c'est
pile exactement au même niveau. Donc c'est vrai que c'est, là, ça a été assez facile de continuer à exploiter les éoliennes existantes tout en construisant à côté. Là, je ne sais pas comment ça peut se faire. Ouais.
Voilà, mais ici, je le répète, c'est un avant-projet. Donc, ce qu'on présente, c'est 3 éoliennes. On pense les mettre là. Est-ce que ce sera là ou à 20 mètres ou à 30 mètres? Voilà, il y a des choses qui vont évoluer et autres. Donc, de nouveau, l'endroit exact, on le saura uniquement après l'étude d'incidence. Et vous le verrez, si je puis me permettre de reprendre de nouveau les slides, au moment de l'enquête publique. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas où sont exactement les éoliennes. Il y aura une étude d'incidence qui vont confirmer ou infirmer certains lieux. Et ici, au moment où on fait une demande de permis, là, il y a des coordonnées Lambert, XY. Donc, c'est au mètre près, au centimètre près, où on doit mettre le centre de l'éolienne. Et là, on en aura la certitude. Voilà. Autre question.
Voilà. Oui, bonjour, Guillaume Bernard. Donc moi, je suis habitant de Jean Blou et je suis également collaborateur chez Nos Moulins. J'ai de nouveau une question pour la commune qui s'écarte un petit peu du permis, mais j'aurais voulu vous demander, donc il y a déjà un certain nombre de mâts qui sont sur votre territoire communal, donc vous percevez une taxe. Si vous êtes enclin à répondre, j'aurais voulu vous demander si...
Normalement, ça ne doit pas sonner. Ça a été désactivé à distance.
Donc... J'aurais voulu vous demander, c'est pas de souci, si cette taxe communale, elle allait plutôt dans un pot commun, ou si vous aviez, par exemple, un pot qui finançait la transition énergétique. Voilà, et si jamais ça va dans un pot commun, est-ce que ce serait une réflexion que vous êtes prêt à avoir, que cet argent aille pour financer la transition? Merci.
Alors, a priori, pour moi, ça va dans un pot commun. Il n'y a pas de distinction qui est faite à la rentrée. Mais oui, de nouveau, pourquoi pas, je ne pense pas non plus que la réflexion a déjà été entreprise. Oui, non, pas du tout. Donc oui, je peux aussi relayer au collège, il n'y a pas de souci avec ça.
Oui.
J'ai une question pour le bureau d'études. Par rapport aux mesures de compensation, on a vu sur la carte précédente qu'il y a beaucoup de projets en cours d'instruction. Et on sait que pour chacun d'entre eux, les différents bureaux d'études vont préconiser des mesures de compensation par rapport aux impacts sur la biodiversité. Est-ce que vous savez s'il y a une réflexion globale sur comment ces différentes mesures de compensation peut-être rentrent en compétition les unes avec les autres? Et est-ce que, par exemple, ça serait opportun de les regrouper toutes au sein d'un même endroit, ou ce qu'il est plus intéressant de justement les éparpiller? Donc, est-ce que c'est plus intéressant que chaque éolienne soit compensée par 1 ou 2 hectares un peu partout, ou est-ce qu'on pourrait créer une grande réserve naturelle, par exemple, hein, même si ça n'a pas le titre, au milieu, dans la plaine entre Bossière et Ferraud, par exemple?
Et donc, l'objectif, c'est à chaque fois, en effet, de compenser l'impact du projet en tant que tel. Donc, fatalement, l'objectif, c'est de rester dans la zone. Donc, il y a un cahier des charges qui est assez précis, vu qu'on veut viser les espèces qui seront potentiellement impactées par le projet. Donc, créer une seule grande zone, c'est pas pertinent parce que ça pourrait être très loin. Donc créer une seule zone, on pourrait être fatalement peut-être très loin, trop loin des espèces visées par les mesures de compensation du projet. Mais par contre, quand on met en place des mesures de compensation, elles doivent obligatoirement être à une distance minimale de tout projet éolien. Et donc fatalement, on arrive dans des situations où parfois quand un demandeur veut implanter un nouveau projet, il se trouve à proximité de mesures de compensation existantes pour un autre projet, et donc il faut pouvoir remplacer ces mesures de compensation qui n'auront plus l'effet escompté, quoi. Donc c'est vrai que parfois il y a un peu de compétition, mais l'objectif, c'est que de manière globale, chaque projet soit compensé. Oui.
Voilà, je vais peut-être me permettre de rajouter un mot, merci Gaëlle, par rapport à ce qui était dit. Donc la question était très bonne, c'est le regroupement de ces mesures. Et donc, comme je l'ai évoqué, donc chez Luminus, on a près de 200 hectares de mesures de compensation. Donc, le modèle avait été très bien expliqué par Gaël. C'est vraiment la dernière étape qui nous garantisse que le bilan environnemental est positif, qu'on puisse le dire avec beaucoup de certitude. On fait un suivi volontaire. Donc, dans le permis, on nous impose la mise en place de ces mesures. C'est très bien comme ça. Mais on nous impose quelque part qu'elles soient bien réalisées. Mais on ne nous impose pas qu'elles soient efficaces, en fait. Et donc, nous, on s'attelle chez le ministre à ce qu'elles soient efficaces, quitte à les modifier. Donc, c'est une modification de permis. Et par expérience, effectivement, la question est très bonne. C'est qu'en regroupant ces mesures, les effets sont décuplés. Voilà. Et c'est peut-être pas l'objet de la réunion ce soir. Et puis, il y a par moments, on a eu quelque part, on peut le dire, certains succès. On préfère même le garder de façon confidentielle, parce que par moments, malheureusement, ça attire beaucoup de monde et donc ça trouble la quiétude de certaines de ces mesures. Donc, on reste relativement discret, mais on vous confirme que on va au-delà de ce qui nous est demandé. Ce sont vraiment des suivis volontaires. Et dans le but, justement, que les nouvelles mesures qu'on met en place, elles soient tout aussi efficaces. Voilà.
Pour ajouter, parce que pour être sûr de bien répondre à la question. Par contre, quand nous, en tant que bureau d'études, on recommande par exemple 5 hectares de mesures de compensation, par contre là, on recommande évidemment qu'elles soient d'un seul tenant dans la mesure du possible. Parce qu'en effet, c'est bien plus efficace d'avoir 5 hectares d'un seul tenant que 5 fois 1 hectare. Donc, je ne sais pas si c'était plutôt ça votre question.
C'était ça, oui.
Ok, pardon. Oui. Ouais, voilà.
Est-ce que finalement, il y a une collaboration entre les différents projets qui ont été présentés, qui sont à l'instruction?
Alors, parfois, quand un développeur, développe dans la même zone, c'est vrai qu'alors on recommande qu'il, dans la mesure du possible, agrandisse les zones pour lesquelles il dispose déjà des accords, quand ça répond toujours au cahier des charges pour le nouveau projet, évidemment.
Voilà. S'il y a d'autres questions, on pourra encore les poser. Donc, si vous avez le sou, on peut boire une petite bière ou un jus d'orange ou un jus de pomme. Voilà. Bien frais, puisque vu les températures extérieures. Donc, des bouteilles de jus d'orange, c'est dans mon coffre. Donc, ça tombe bien. Il faisait bien frais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je suggère de clôturer officiellement la réunion. Et comme ça, on arrête le PV. 1, 2, 3. Voilà, fin de séance. Merci beaucoup pour votre présence et voilà, et à la prochaine. Voilà.